Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Pour une fois, nous allons quitter les laboratoires de Rennes 1 pour nous parler un peu d'histoire. Nous avons reçu Claude Mordant, président du Comité des Travaux Scientifiques et Historiques de France, qui va nous parler un peu du congrès qui s'est tenu du 22 au 27 avril 2013 au bâtiment L de l'Université Rennes 2 et dont le thème était « Se nourrir ». Pratique et stratégie d'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claude Mordant, président du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, dans le cadre du Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques de France. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques de France et nous parler de l'histoire du Congrès ?
Oui, bien sûr. Donc, le Comité des Travaux Historiques est une vieille institution. Le Comité des Travaux Historiques a été fondé par Guizot sous la monarchie de Juillet, donc en 1834. Donc, nous sommes du 19e siècle et c'est une structure qui est encore présente au 21e siècle, ce qui est une chose rare dans le domaine de la recherche. Et le CTHS a, en plus de cette longévité, d'autres particularités. Guizot avait fondé ce comité des travaux historiques en 1834, donc dans l'optique de mettre au jour et d'étudier ce qui était à l'époque les documents inédits de l'histoire de France, c'est-à-dire toutes ces ressources qui maintenant sont dans les services d'archives ou qui sont référencées dans les services du patrimoine, c'est-à-dire rechercher tout ce qui était la base, en quelque sorte, de la fondation de l'État moderne que la monarchie de Juillet, puis ensuite le Second Empire, puis la Troisième République ont promu. Et donc, pendant tout le 19e siècle, le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques a véritablement été l'agence de la recherche adossée au ministère de l'instruction publique, comme on disait à l'époque, pour promouvoir la recherche. Toutes les recherches, aussi bien les recherches historiques, celles qui étaient chères à Guizot au départ, mais aussi la botanique, l'agriculture, la science naturelle, la biologie, comme on dit maintenant, mais aussi la médecine, la géographie. Le champ d'action du comité hétérohistorique au 19e siècle était très large. Et puis au cours du 20e siècle, il y a eu mise en place de la spécialisation de la science et il y a eu création, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, de grands organismes de recherche comme le CNRS, comme l'INRA, comme l'INSERM et d'autres. Et de en fait, le CTHS s'est trouvé recentré, en quelque sorte, sur ses champs disciplinaires de départ, qui étaient celui des sciences humaines et sociales, comme on dit maintenant, et à savoir, surtout, dans ce champ des sciences humaines et sociales, le champ historique. Mais il y a également au CTHS donc, des spécialistes de la géographie, des spécialistes de l'environnement, des spécialistes de l'ethnographie, de l'histoire des sciences, et puis toutes les spécialités des historiens jusqu'aux archéologues préhistoriens, dont je suis un représentant.
Le thème du congrès de cette année est « Se nourrir, évolution des pratiques et des stratégies alimentaires ». Comment vous est venue l'idée de ce thème en particulier ?
Alors, comme je viens de le dire, je suis préhistorien et le thème de cette année a été retenu par une section du comité hétérohistorique qui s'appelle la section de pré-protohistoire. Donc, elle regroupe des spécialistes des temps anciens. Et nous devons bien sûr trouver un thème qui intéresse toutes les spécialités du comité. Donc, nous avons recherché entre nos spécialités propres des archéologues et celles de nos collègues historiens, ethnographes, géologues, un sujet qui pourrait se prêter à cette analyse interdisciplinaire, pluridisciplinaire, telle que les comités des travaux historiques sont depuis leur première session. Donc en 1861 a été mis en œuvre le premier congrès. Et au départ, ils étaient plutôt tous à Paris. Ensuite, ils se sont déplacés en province. Donc il fallait chercher un thème et un lieu. Alors le thème nous a semblé être intéressant, prendre quelque chose qui nous semble tellement banal, mais tellement angoissant parfois, à savoir la nourriture. C'est banal pour ceux qui ont à manger tous les jours, c'est une angoisse permanente pour ceux qui sont au seuil de pauvreté, voire même dans des situations de famine. Ce sont des choses que les temps anciens ont connues, et encore malheureusement de nos jours. Donc c'est un sujet qui pouvait sembler naturel pour des préhistoriens. Et puis, nous avons également, après, fait une sorte de tour de France et on a constaté que nous n'étions pas venus en Bretagne depuis fort longtemps, puisque le dernier congrès du comité des historiques était 1966. Et donc, nous sommes dit, il serait temps d'aller peut-être du côté de l'Ouest, plutôt en Bretagne. Et en croisant ces idées des préhistoriens sur le temps long et sur la nécessité de se nourrir, et puis d'une certaine manière aussi la Bretagne avec cet affichage que la Bretagne possède en termes de bien vivre, d'industrie agroalimentaire, de production de nourriture de qualité, de recherche de labels. Toutes ces questions nous ont fait rapidement comprendre qu'il était tout à fait possible d'envisager ce thème en Bretagne et nous avons été particulièrement bien accueillis par la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, mais aussi par Rennes 2 et par les équipes de recherche de l'ensemble des universités de Bretagne, ainsi que les sociétés savantes de Bretagne qui nous ont réservé un accueil tout à fait enthousiaste autour de cette thématique de recherche. Et voici pourquoi nous sommes pour toute cette semaine ici à Rennes.
Est-ce qu'il s'agit d'un congrès avec des publications à la fin comme un colloque ou est-ce que c'est un congrès à but purement philanthropique pour partager des connaissances et les partager aussi avec un public qui vient nombreux puisque l'événement est gratuit ?
Alors, bien sûr, c'est un schéma classique de rencontres scientifiques avec des spécialistes qui, comme je l'ai dit, sont soit des spécialistes universitaires, soit des spécialistes de sociétés savantes, c'est-à-dire des érudits bénévoles qui font des recherches historiques ou dans le champ des sciences environnementales par passion. Donc, tout le monde est là par passion et par intérêt pour le sujet. Et évidemment, il y a à terme une publication ou des publications qui concerneront les différents aspects repris dans le programme du congrès. Mais il y a eu une conférence publique au champ libre sur la question des goûts et des transformations du goût. Nous aurons vendredi, pour la session de clôture, un entretien entre M. L'Espagnol et puis M. Rollinger autour des questions des échanges de produits alimentaires, d'invention des épices, de l'introduction des épices. Donc nous avons cette volonté d'ouvrir vers le grand public et bien sûr toute personne intéressée, curieuse, a droit de venir écouter les conférences des uns et des autres ici sur le campus de Rennes 2.
Est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse rapide de ce que l'on peut appeler se nourrir aujourd'hui au XXIe siècle ?
Je crains de ne pas en être capable, non. Ce que nous avons tenté dans ce titre, à double détente, stratégie et pratique, de mettre en évidence, c'est qu'il y a une très grande diversité de comportements alimentaires à l'échelle de notre planète actuelle et dans le temps. Et donc, c'est très intéressant quand on suit sur la longue durée, puisqu'on n'échappe pas à sa spécialité, donc à l'archéologie qui est ma spécialité de départ. Quand on regarde effectivement cette transformation, donc nous sommes tous des descendants de chasseurs, certes de mammouths, mais aussi de plus petits gibiers, mais nous sommes tous des descendants de chasseurs. Et ce chasseur, vers 10 000 avant notre ère, s'est transformé en un éleveur, cultivateur, et donc le statut de l'homme a changé. L'homme, au départ, était un des partenaire de cette nature généreuse qui lui donnait à manger et à l'intérieur de laquelle il était certes protégé mais aussi agressé puisqu'il y avait des bêtes sauvages comme on dit. Et avec l'introduction de l'agriculture et de l'élevage, l'homme est devenu maître en quelque sorte, est devenu une pression sur son environnement naturel et on voit bien où cela a conduit. Et ce modèle de l'homme agriculteur, éleveur, sédentaire, c'est un modèle qui a réussi à l'échelle de la planète, si bien que maintenant notre planète est complètement, comme on dit, anthropisée, c'est-à-dire elle est totalement transformée par l'homme. Il n'existe quasiment plus de terres sauvages, pourrait-on dire, en étant très caricatural. Parce que même les terres actuellement inhabitées subissent malgré tout le contre-coup des changements globaux de la planète qui sont liés à ce développement des populations humaines. Donc ça, c'est une notion intéressante de voir à quel point les populations humaines ont certes profité de leur environnement, mais ils ont toujours créé à l'intérieur de l'environnement qui leur était disponible des choix. Donc c'est le terme de stratégie, c'est-à-dire que certaines populations ont exploité sur les plateaux des Andes, ils ont domestiqué du maïs, des tomates, des haricots. Et ici en Europe, on a plutôt domestiqué, pour rester dans le domaine des plantes, des céréales, des carottes, des tubercules. Et puis, avec la mondialisation, pour prendre un terme contemporain, eh bien, maintenant, nous mangeons des pommes de terre, des haricots, des tomates qui nous viennent des Amériques, parce qu'il y a eu ces mouvements de population. Et ces stratégies alimentaires, on ne les perçoit que si, justement, effectivement, on a cette approche différenciée du temps et que l'on sait qu'il y a eu ces changements et que l'on peut apprécier la part entre la disponibilité. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps que l'on mange des pommes de terre en Europe, ce n'était pas notre menu. Maintenant, imaginez un menu sans pommes de terre, on a du mal à penser que ce serait faisable. Or, ça a été faisable pendant de très nombreux millénaires. Et donc, il y a eu des stratégies en relation avec cette absence d'une ressource. Mais ensuite, effectivement, il y a toujours un choix. Tout le monde sait que les Français, par rapport à des populations proches comme les Anglais, sont des mangeurs de grenouilles. Hein, on sait que nous sommes des mangeurs de grenouilles. Mais un Anglais n'est pas un mangeur de grenouilles, sauf s'il vit très longtemps en France et qu'il trouve tout compte fait, suite à une expérience, que ah oui, la grenouille, ça a un bon goût et qu'on peut manger des grenouilles. Il y a donc toujours ce choix et la stratégie est toujours un dialogue entre des contraintes culturelles et des contraintes environnementales. Et c'est cela qui a été décliné dans beaucoup de thématiques, hein, d'ateliers, de recherches, de chercheurs. Et il y a un colloque en particulier qui a un titre tout à fait évocateur qui s'appelle « Les mangeurs du XXIe siècle ». Nous sommes des mangeurs du XXIe siècle. La question, c'est que mangera-t-on ? Continuera-t-on de manger des steaks, des pommes de terre sous forme de frites ou sous forme de purée? Bref, je dis un peu ce qui me passe à l'esprit. Mais il est certain que ces angoisses alimentaires, hein, sont nourries aussi d'influences, des publicités, des arguments de santé publique. Bref, nous ne sommes pas, entre guillemets, totalement libres de choisir ce que nous allons manger. Et cela crée parfois des stress, hein, et des tensions à l'intérieur des différentes composantes de notre société en France. Et bien sûr, si on transpose ça dans d'autres sociétés, ça devient un problème mondial. Et la nourriture est un problème mondial. Et on sait bien qu'on ne peut pas nourrir des populations dites d'Afrique comme on nourrit des populations européennes. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est même pas raisonnable, même si on sait bien que tout le monde boit du Coca-Cola. Mais on n'est pas sûr que ce soit forcément à terme une stratégie intéressante de mondialiser l'ensemble de l'alimentation.
Vous parliez tout à l'heure des stratégies par rapport aux contraintes alimentaires. Ça me fait penser à l'introduction des crabes royaux du Kamchatka au nord de la mer de Kara par l'Union soviétique, par exemple, et qui aujourd'hui devient une espèce endémique qui envahit jusqu'au golfe de Bering, ou à l'extinction de la mer d'Aral due à des tentatives d'irrigation par l'Union soviétique. Est-ce que justement les contraintes géographiques par rapport à la production alimentaire ne devraient-elles pas être mieux respecter au risque de moins bien nourrir certaines populations?
Je crois qu'on ne veut pas ne pas bien nourrir les populations. C'est une forme d'obligation morale et physiologique. Mais en effet, on sait bien que les choix humains sont parfois peu réfléchis. Là, ce matin, j'écoutais une communication sur les huîtres. Et les huîtres ont connu, sur les côtes françaises, des crises. Hein. L'huître plate a disparu. Puis ensuite, on a acclimaté l'huître portugaise qui a de nouveau disparu. Puis on a fait venir des huîtres du naissin des petites huîtres du Japon, puis en même temps qu'on a fait venir des petites huîtres du Japon, ben on a amené tout un tas d'espèces du Japon qui n'étaient pas du tout prévues, puis qui sont en train de perturber l'écosystème des côtes de Bretagne. Donc ça, c'est un modèle qui montre bien que dans une recherche immédiate d'un type d'alimentation, on peut avoir des conséquences qu'on n'a pas initialement appréciées. Alors, c'est toujours de la faute des hommes, bien sûr, mais je crois que ça, c'est un peu des propos, comme je dirais, simplistes. Mais il est difficile d'être certain de la validité ou de la qualité de nos choix. Et on ne peut pas toujours penser que les hommes soient animés par des idées qui ne soient pas généreuses. Il y a des idées généreuses qui conduisent à des désastres, et puis il y a des idées pernicieuses qui conduisent également à des désastres. Donc, ce n'est pas cette difficulté des choix reste. Et en effet, donc, l'assèchement de la mer d'Aral, c'est une catastrophe parce qu'il n'aurait pas été juste de la faire. Mais il y a eu d'autres catastrophes écologiques qui sont nées de bonnes intentions, comme l'on dit.
En parlant d'intentions de stratégie alimentaire, est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'une dérive des stratégies alimentaires par rapport à l'argent? C'est-à-dire que l'argent pourrait mener à des décisions d'exploitation agricole ou plus généralement de production alimentaire de manière irréfléchie pour un simple rapport économique. Et est-ce que ce serait une nouveauté du XXIe siècle ou est-ce que depuis que l'économie telle que nous la connaissons existe, est-ce que l'homme a déjà pratiqué ce genre de choix irréfléchi pour des raisons économiques?
Peut-être qu'il est un exemple que l'on connaisse, l'introduction du sucre. Le sucre qui est produit donc aux Amériques, et en particulier pour nous ici sur les côtes de l'ouest de la France en relation avec les Antilles. Le grand commerce du sucre, c'était l'or blanc, c'était une richesse. Et si le sucre est arrivé chez nous, c'est au départ quand même dans une économie rentable. Hein. Mais ensuite, le sucre est devenu un composant agréable, plaisant au point de vue du goût. Hein. Presque tout le monde a cette appétence pour le sucré, les enfants en particulier, et on ne peut pas dire que ce soit mal que d'apprécier un dessert sucré. Donc c'est comme toujours, les hommes ont des idées, et puis ensuite c'est surtout le temps qui parfois manque pour apprécier la pertinence de telle ou telle action, et sans pour cela remettre les historiens sur un piédestal, et ils ne veulent surtout pas l'être. Mais l'histoire ne donne pas des conseils, hein. L'histoire ne se refait pas, mais l'histoire est remplie d'expériences qui, lorsqu'elles sont regardées avec un esprit critique dans certaines situations, peuvent permettre des réflexions et des stratégies pour l'avenir. Donc, les mangeurs du XXIe siècle, c'est bien de savoir où nous en sommes, non pas pour savoir ce que sera l'avenir, parce que l'avenir est toujours variable, mais peut-être au moins tenter de ne pas faire les erreurs qui ont pu se trouver déjà réalisées dans d'autres contextes sociaux et dont on connaît bien les processus, les modèles.
Il est maintenant temps de faire une petite pause musicale avec le groupe Pix et le titre Your Boy. Parlons maintenant d'un autre sujet. En tant que proto-historien originaire de Dijon, est-ce que vous connaissez les histoires des mines de sel des Gauloises qu'il y avait à l'époque, le fameux or blanc justement avant le sucre? Le sel, on peut dire que c'est une forme de base de l'alimentation moderne. À l'origine, c'était la seule chose qui permettait de conserver les aliments sur le long terme. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution des pratiques par rapport à la conservation des aliments?
Oui, je vois que vous me faites parler beaucoup sur des sujets dont je ne suis pas forcément le spécialiste, mais dont, sur lesquels on peut dire quelques vérités générales. Le chlorure de sodium, le sel, est indispensable à la physiologie des hommes. Et dès l'instant que les hommes se sédentarisent, il faut qu'ils aient des ressources en sel pour divers aspects d'équilibre hydrominéral à l'intérieur de leur organisme. Et ce sel, ils vont le trouver forcément dans leur alimentation. Et ils vont le trouver dans l'alimentation, soit de la viande qui en renferme naturellement, soit dans les eaux qu'ils peuvent boire ou dans certains fruits et légumes. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'au cours du temps, et avec la sédentarisation, avec la néolithisation, aussi bien les hommes que les animaux ont eu des besoins en sel. Et d'autant plus fort qu'ils étaient éloignés des côtes marines, là où le sel est omniprésent. Et on a constaté donc que dès 5000, 6000 avant notre ère, il s'est mis en place des trocs, des déplacements à très longue distance de sel conditionné sous forme de pain. Et ces pains de sel ont pris une valeur marchande, une valeur d'échange tout à fait considérable. Et bien grâce à ce sel, on a pu ensuite progressivement et nourrir les animaux, puis petit à petit apprécier également la qualité du sel pour conserver les aliments. Et pour chez nous, les populations qui ont été connues comme étant des producteurs de salaison, bien sûr, les Gaulois sont célèbres dans leur salaison, alors les salaisons de tous ordres, et en particulier des salaisons de jambon, de charcuterie, qui étaient célèbres jusqu'à Rome. Donc le sel, en effet, a permis de conserver ces aliments, mais la conservation des aliments par le sel est une des conservations que les hommes ont mis en place, hein, ont inventé. Mais il y a eu des fumures, il y a eu du séchage, il y a eu de la réduction en poudre, il y a énormément de cocktails, pourrait-on dire, de façons de conserver. Et il est vrai que ça a toujours été l'angoisse des populations, des hommes, que d'être capable de faire du stockage. Et si les céréales ont réussi si bien chez nous, ou si les légumes secs ont réussi si bien, les légumineuses, hein, les lentilles par exemple, ou les pois ont réussi si bien dans nos régions, c'est parce qu'il est très facile de conserver des céréales, des lentilles, des petits pois. Il suffit de les laisser au sec et elles conservent surtout toute leur valeur énergétique, toute leur valeur de qualité gustative. Ce qui n'est pas le cas de viande, hein, ou de fruits s'ils ne sont pas dûment conservés.
Donc vous parliez de stockage de légumineuses, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment est-ce que ça est arrivé? Quand est-ce que ça a commencé à se faire? Qui a commencé à stocker des aliments? Et surtout, pourquoi et comment?
Ce stockage des céréales, des graines, il est contemporain de l'invention de l'agriculture. L'agriculture se développe dans notre monde au Proche-Orient, hein, dans le domaine européen, c'est au Proche-Orient, c'est dans le croissant fertile, hein, entre Liban, Syrie, Irak, Iran, dans ces pays contemporains, que l'agriculture est née vers 10 000 avant notre ère. Et avant cette période, dans ces régions, existent des plantes spontanées, sauvages, qui sont des céréales, donc de l'orge sauvage, du blé sauvage, et les populations qui n'étaient pas encore des agriculteurs ont constaté la qualité en termes alimentaires de ces céréales. Et ils se sont mis à les récolter de façon sélective et ils les ont stockées. Et donc il y a, dès avant l'invention de l'agriculture, des stockages de graines par les populations qui, de fait, ayant des réserves importantes leur permettant de vivre plusieurs mois sans se déplacer, en sont venus à être sédentaires avant d'être agriculteurs. Et ensuite, et là c'est encore une vraie question qui se pose, pourquoi sont-ils restés sédentaires et pourquoi sont-ils devenus agriculteurs? Là, ce n'est pas simple et les facteurs sont sûrement multiples. Mais le stockage est un des éléments essentiels de cette invention de la sédentarité et de cette invention de l'agriculture. Et ensuite, l'homme a passé son temps à inventer des greniers, des silos, alors des greniers surélevés pour échapper aux rongeurs, des greniers enterrés pour échapper aux voleurs, des greniers à moitié enterrés, à moitié surélevés, des greniers en pierre, des greniers en terre, des greniers en bois. C'est éminemment variable, mais toutes les sociétés d'agriculteurs ont des greniers, tous. Et on stocke, alors selon les latitudes, ou du blé ou de l'orge, d'autres céréales battues, prêtes à l'emploi, hein, ou au contraire des épis. Et des épis que l'on cueille et qu'on récolte et qu'ensuite on broie au fur et à mesure des besoins. Donc ça, là aussi, sur ces questions de stockage ou sur ces questions de choix de céréales, il y a une variabilité très grande des choix des populations, mais l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire préserver de la nourriture et conserver des aliments dont la résistance, en quelque sorte, est attestée et remarquable. Alors, petite histoire, le fait d'avoir gardé des céréales, eh ben, ça fait que les petites souris qui mangeaient céréales, ben, ils ont suivi les cultivateurs. Et il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de souris en Europe occidentale, ici en France. Les souris étaient des petits animaux qui vivaient là-bas au Proche-Orient. Puis ben, maintenant, les petites souris, ils ont suivi tout le monde. Et puis les petites souris, ben, elles sont chez nous. Et c'est une longue histoire. Alors, on est capable d'apprécier ces déplacements maintenant parce qu'on a des méthodes d'analyse de l'ADN des petites souris, de l'ADN des porcs, de l'ADN des moutons. Et on voit que toutes ces espèces qui nous entourent, dont on a l'impression qu'elles ont toujours été là, eh bien non, elles viennent d'ailleurs. Mais elles ont tellement été domestiquées, tellement été adaptées à nos environnements, puisqu'il y a des petites vaches, des grandes vaches, des grosses vaches qui font de la viande, qui font du lait. Donc il y a une telle variabilité dans ces espèces qui nous sont proches que l'on a complètement adapté certaines espèces à nos besoins. Et en retour, ces animaux, d'une certaine manière, aussi profitent de leur statut. Et le chien, hein, le fidèle ami de l'homme, le chien, c'est aussi un animal qui, au cours du temps, est passé d'un statut sauvage à un statut proche de l'homme parce que vraisemblablement, à un moment donné, pour le chien, plutôt pour son ancêtre le loup, c'était une manière d'assumer en quelque sorte une nourriture plus facile pour lui.
L'ironie de la situation, c'est que l'homme a maîtrisé la sélection génétique de ses aliments bien longtemps avant de savoir ce qu'était un gène.
Ça, c'est une certitude. Il a fait des assemblages de gènes par le biais d'individus sans en effet connaître le mécanisme de sélection des gènes. Il a fait de la sélection naturelle, il a fait de la sélection de variétés qui lui semblaient intéressantes. Et les variétés qui lui semblent intéressantes ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire que, par exemple, certaines variétés de grands bovidés avec des grandes cornes plaisent à certaines sociétés. Et au contraire, donc ils ont développé l'aspect longue corne parce que ça a un prestige, c'est des belles vaches avec des très grandes cornes. Puis d'autres ont pensé qu'il fallait mieux avoir des petites cornes parce qu'il fallait que les vaches soient dans des contextes plus concentrés, hein, dans des étables, etc. Et dans ce cas-là, les grandes cornes, ça n'a aucun intérêt. Donc on voit bien que selon des critères culturels, les résultats ne sont pas les mêmes, parfois même complètement antinomiques.
On n'en a pas encore parlé, mais est-ce que vous pourriez nous toucher deux mots sur les pratiques alimentaires humaines vis-à-vis de la ressource halieutique ?
Les ressources en poissons, on ne peut pas imaginer qu'il ne les ait pas utilisées. Alors, moi, j'ai toujours tendance à vous entraîner dans les périodes très anciennes, parce que c'est ma spécialité, hein, et donc je sais plutôt parler de ce que j'ignore le moins possible. Donc, les poissons, on en parlait ce matin dans une session, les poissons sont disponibles plus ou moins facilement, ou les coquillages de bord de mer sont plus ou moins faciles à collecter ou à pêcher, mais parfois, un poisson peut ne pas laisser de traces. Or, un archéologue ne peut parler que de ce qu'il trouve et que des témoins matériels qu'il peut observer, qui lui montrent que, parfois, on a pêché une dorade, ou on a pêché une anguille, ou on a pêché un saumon, ou on a pêché un brochet. Et donc, les vestiges d'arêtes ou les vestiges de vertèbres de ces poissons ne sont pas toujours faciles à conserver. Mais il y a des milieux qu'ils conservent très bien dans les marais, dans les tourbes. Et donc, en effet, on sait que les populations humaines ont pêché au filet, ils ont pêché au harpon, très anciennement, hein, quand à l'époque où les saumons remontaient les rivières au paléolithique supérieur, on connaît des populations magdaléniens qui avaient inventé des harpons à barbelure, un peu comme sont les harpons des Inuits, et qui étaient faits pour harponner le saumon et qui consommaient du saumon en grande quantité. Mais on connaît les harpons, on connaît moins bien les vertèbres des dix saumons. Donc on pense qu'en effet, c'était plutôt le saumon qu'il harponnait parce que c'est facile à prendre. On connaît également plus tard des nasses pour attraper les anguilles. On connaît des pêcheries en baie du Mont-Saint-Michel qui remontent à l'âge du bronze, hein, qui ont 4000 ans. On connaît donc parfois des équipements pour des pêches importante. Et puis ensuite, les textes prennent le relais et on sait qu'effectivement, les Romains fabriquaient des sauces de poisson, hein, qu'ils exportaient dans des amphores. On sait que bien la carpe était le plat de résistance des moines pendant les périodes de jeûne et que les moines avaient donc obligation de manger du poisson et que donc ils créaient des étangs pour que les carpes ils puissent les avoir à proximité, sachant que là aussi, le poisson, certes, il se sèche, il se fume. Mais un poisson qui n'est pas conservé devient très vite non consommable. Donc la pêche est une activité forcément pratiquée, mais qui n'est pas toujours facilement détectable. Si vous avez chassé un mammouth ou un rhinocéros laineux, c'est plus facile de trouver une défense de mammouth qu'une arête de saumon.
Nous avons abordé un peu l'histoire de l'alimentation des hommes depuis le paléolithique supérieur jusqu'au XXIe siècle. Pour conclure, comment voyez-vous l'alimentation de demain ?
Je pense que cette alimentation de demain, elle restera forcément par essence très culturelle, au sens qu'on ne peut imaginer que toutes les populations humaines se mettent à consommer une seule ressource. Je crois que c'est un mythe, un rêve. Hein. On nous a tous dit qu'en l'an 2000, on avalerait des pilules ou que du fait que nous serions capables d'aller tous sur la Lune, on en partirait avec notre alimentation lyophilisée. On voit bien que peut-être des gens ont rêvé dans les années 50 de transformer leurs descendants des années 2000 en ces gens mangeurs de pilules. On voit bien à l'heure actuelle qu'il n'en est pas question, du moins en France. Tous les arguments que l'on entend sur la qualité de la chair, la bonne chair en France, l'exception française, l'importance de la gastronomie, de la diversification des ressources alimentaires. Bref, tous ces discours qui sont puissants et qui interpellent chacun d'entre nous, hein, ça ne nous laisse aucunement indifférent. Hein. Parler de la nourriture en France, c'est un sujet sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie. Et on y passe du temps. Et on est les champions encore, toute catégorie, des gens qui passons le plus de temps à table et que l'on considère que ce n'est pas du temps perdu, que c'est du temps sérieux. Et donc, je pense, pour parler un peu comme français, il n'y a aucune raison d'imaginer que nous allons, du jour au lendemain, ne plus être français dans cette approche culinaire complète de l'alimentation. Mais par contre, est-ce que nous mangerons pas d'autres produits que l'on nous apprendra à consommer? Ça, je suis convaincu que non. Nous mangerons probablement d'autres aliments que ceux que nous avons à l'heure actuelle. Mais ça passera forcément par un apprentissage culturel. On nous expliquera pourquoi il est bon pour un Français du XXIe siècle de consommer telle ou telle chose, parce que ça a des qualités en termes de santé, en termes de qualité gustative. Non, mais il faudra forcément nécessairement un apprentissage, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Merci Claude Mordant pour votre intervention. Est-ce que nous pourrons retrouver des comptes rendus de toutes ces conférences après
Je vous encourage à consulter régulièrement le site du CTHS, hein, donc www.cths.fr, où vous verrez passer des informations sur les actes du congrès de Rennes 2013 sont disponibles. Il est sorti tel ouvrage qui regroupe telle et telle et telle communication. Et ces communications donc, des congrès du CTHS sont diffusées sous format numérique maintenant, hein, depuis plusieurs années. Et bien sûr, ils sont achetables, puisque ma foi, un éditeur se doit d'éditer, mais il ne peut le faire gratuitement. Mais il est acquis maintenant qu'après 3 années, toutes ces communications, tous ces actes de congrès sont disponibles. Et donc, si vous attendez 2016... C'est pas si long que ça, surtout pour un historien. Vous aurez à disposition tout ce qui aura été dit et surtout écrit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'auront pas été imprimées, mais tout ce qui aura été dit et imprimé sera disponible.
C'était donc Claude Mordant, président du Comité des Travaux Scientifiques et Historiques de France. Nous allons maintenant devoir nous laisser, mais restez à l'écoute de Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site radiocampusrennes.fr. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission au podcast sur le site de l'émission radiocampusrennes.fr/LABM. Bonjour à tous, à très bientôt.